positif,
le dossier.
Avec le docteur Catherine Gillin, neurologue, spécialiste en réadaptation fonctionnelle. On parle donc de la maladie de Parkinson du point de vue des traitements. C'est vrai que c'était la journée de la maladie de Parkinson le 26 avril. Et on va parler des traitements parce que au fond, on a été souvent interpellé dans l'émission ici, notamment dans l'ADN, par des nouvelles et des annonces qui étaient faites autour de la maladie, comme ça l'est souvent le cas aussi d'ailleurs autour de la maladie d'Alzheimer. On s'est dit que ce serait bien de faire un peu le point sur ce qui est une vraie annonce et un vrai espoir et ce qui finalement fonctionne déjà chez nous et comment ça fonctionne d'ailleurs. On rappelle en deux mots le principe de cette maladie neurodégénérative.
Donc neurodégénérative, pour rappel, ça veut dire qu'il y a une dégradation de fonctionnement de certaines cellules et cette dégradation est progressive et irréversible. Oui. Donc ça c'est important de bien retenir, ce n'est pas une maladie dont on peut guérir. Donc le but, on a plusieurs buts dans la recherche. D'une part, c'est d'essayer de comprendre tous les processus parce qu'il y en a plusieurs qui s'additionnent, qui vont finir par provoquer, si vous voulez, le déclenchement de la maladie. Donc pour essayer de voir si on peut le prévenir autant que possible. Et une fois qu'elle est enclenchée, essayer de ralentir les processus dégénératifs qui sont en cours. C'est quand même, en termes de fréquence, la deuxième maladie neurodégénérative après l'Alzheimer, qui touche près de 2% des personnes après 65 ans dans nos pays occidentaux, parce qu'il y a une répartition géographique un peu particulière. La plupart du temps, dans 70% des cas, c'est la maladie de Parkinson dite sporadique, c'est-à-dire vraiment qui tombe entre guillemets au hasard sans cause connue, vraie. Maintenant, il y a vraisemblablement une susceptibilité génétique, c'est important le mot susceptibilité, associée à plusieurs autres facteurs. Et puis, il y a 30% de maladies dites de Parkinson qui ne sont pas des maladies de Parkinson pures, qui sont ce qu'on appelle les Parkinson plus, on en a déjà parlé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un processus dégénératif qui touche plusieurs autres endroits du cerveau et du corps. Et puis, il y a les maladies de Parkinson qui sont symptomatiques de quelque chose. Ça peut être un accident vasculaire cérébral, comme ça peut être des toxiques. Et vous l'aviez déjà cité, certains pesticides ou organophosphorés ont été mis en cause, en tout cas, pour pouvoir le déclencher. Mais il faut bien identifier que c'est vraiment toujours dans ces processus-là l'association de plusieurs choses qui finissent par provoquer la dégradation d'un processus fonctionnel habituel qui, lui, dans la chaîne de tout le fonctionnement cellulaire, va provoquer d'autres dégradations ailleurs.
C'est une sorte de cascade.
Voilà, il y a une cascade. Ce qui se passe au départ, c'est une atteinte des neurones dopaminergiques. Donc la dopamine, on en avait déjà parlé, c'est vraiment un neurotransmetteur extrêmement utile dans le cerveau. Neurotransmetteur, c'est cette molécule chimique qui permet à deux cellules de se transmettre une information. Cette dopamine est représentée dans beaucoup d'endroits dans le corps, mais particulièrement concentrée dans une substance qui s'appelle locus niger, qui est responsable justement de la gestuelle automatique et de la gestion de nos actes moteurs. Donc le départ, l'origine est là, avec comme symptômes classiques tremblement, rigidité, diminution de fluidité du geste, etc. Et puis petit à petit, malheureusement, ça va s'étendre. D'une part, ça va prendre de plus en plus d'ampleur au niveau du système moteur lui-même, et puis d'autre part, ça va atteindre d'autres neurotransmetteurs, ceux de l'humeur, ceux de l'envie de faire, ceux de la vision aussi, parce qu'on a la dopamine dans la rétine, on a la dopamine au niveau du système digestif, donc ils ont très rapidement des troubles digestifs. Donc finalement, ça devient une maladie qui touche malheureusement le corps entier. Donc ça, c'est vraiment important. Mais se rappeler qu'il y a une cascade est vraiment utile parce que c'est vrai que la plupart des traitements visent à essayer de remettre cette dopamine qui est en cause, mais ça ne va pas suffire. Et ça ne va pas suffire à long terme. Au niveau des neurones qui contiennent de la dopamine aussi, c'est important de comprendre que c'est une altération qui va un petit peu, qui est assez hétérogène. Au départ, il y a quelques neurones qui s'abîment, les autres continuent à fonctionner tant que faire se peut. Et donc, quand on en rajoute, comme avec le médicament classique, la L-DOPA, Prolopa, Sinemet, etc., quand on en rajoute, les neurones sains peuvent encore s'activer. Puis petit à petit, il y en a de plus en plus qui disparaissent. Et donc, à long terme, au bout de ce qu'on appelle la lune de miel, vers 5-6 ans, il y a d'autres cellules dont ce n'était pas au départ le rôle, qui vont prendre le relais. Les cellules dites astrocytaires vont essayer aussi de métaboliser la dopamine, mais c'est beaucoup moins efficace. Et donc on a cliniquement de plus en plus de difficultés à gérer l'équilibre fonctionnel de nos patients. Mmh. Mais ça, c'est aussi l'évolution normale de la maladie. On a beaucoup incriminé les médicaments comme étant responsables de ça. Oui et non, c'est sûr qu'en rajouter, il y a un peu un dysfonctionnement qui peut parfois être mis en cause, mais c'est aussi une évolution naturelle.
Ça veut dire que quand on essaye de donner de la dopamine aux personnes qui sont atteintes de Parkinson, on ne fait que freiner le processus, mais on n'empêchera pas.
On n'empêche pas, voilà. On n'a encore rien trouvé qui ralentisse le processus dégénératif. Ce qui va chercher à ralentir le plus, ce sont tout ce qu'on appelle les neuroprotecteurs, c'est-à-dire essayer d'empêcher ce processus anormal d'étouffement. Et on sait qu'il y a l'accumulation d'une protéine anormale. Je vous ai déjà parlé de ça dans l'Alzheimer. C'est toujours le même principe. Ici, c'est une autre protéine, c'est l'alpha-synucléine. On sait qu'il y a un processus de départ qui va faire que cette protéine qui est en taux logique est indispensable au fonctionnement, une fois qu'il y a quelque chose qui ne marche plus, va s'accumuler et faire des paquets, si vous voulez, dans ce qu'on appelle les corps de Lewy, qui vont empêcher les neurones de fonctionner correctement. Donc on essaye de trouver des neuroprotecteurs pour que les cellules soient protégées le plus possible de ça. Ça, c'est pour essayer de ralentir. Mais il y a quand même un processus dégénératif qui est vraiment lancé.
Vous avez justement parlé d'un processus irréversible. Est-ce que ça veut dire que quelque part, le but ultime, ce serait de pouvoir quand même à un moment donné arrêter la maladie, mais en se disant qu'on ne récupérera pas ce qui avait été perdu avant, mais au moins pouvoir l'arrêter à un temps T.
Oui, bien sûr. Je crois qu'il faut, garder des objectifs comme ça. Oui. Et c'est vrai que tout ce qui est, on va en parler, tout ce qui est dans les recherches actuellement, et mon Dieu, la recherche, elle a toujours fonctionné. Je dis, rien n'est nouveau. Ça fait depuis toujours qu'on cherche et qu'on arrive à trouver des résultats, bien sûr. Donc il faut imaginer, il faut être inventif, il faut essayer pour avoir peut-être un résultat sur 100 essais, évidemment.
On a parlé de la dopamine. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le seul médicament, entre guillemets, qui permet un traitement de la maladie en elle-même et qu'ensuite, tout le reste, tous les autres traitements qu'on aura, ce seront des traitements plutôt pour traiter les symptômes qui vont s'ajouter?
Oui, les symptômes moteurs, c'est vraiment via la dopamine. Ouais. Alors, on a de la dopamine en soi, donc ça, c'est effectivement la L-DOPA, donc qui vient se mettre directement dans la cellule. Il y a aussi ce qu'on appelle un agoniste dopaminergique, c'est-à-dire que c'est une fausse dopamine qui va directement agir sur le récepteur. Ouais. Alors, ce qu'on a déjà créé, c'est des médicaments qui essayent d'équilibrer cet apport de dopamine. Pourquoi ? Une des choses importantes à comprendre, c'est que le corps synthétise cette dopamine en permanence. Oui. C'est continu. Hein ? D'ailleurs, vous avez une motricité qui est fluide, qui est logique tout le temps que vous voulez fonctionner. Quand on prend des médicaments, au début, on les prend 3 fois par jour. Donc, on fait des petits shoots, si vous voulez. Hop. Et puis, petit à petit, quand je vous disais qu'il y a cette perte progressive des neurones, ben, ça ne va plus suffire pour avoir ce qu'on appelle cette pulsion continue. Donc, le but, c'est d'essayer de trouver des formes d'administration de médicaments qui vont rendre cette pulsion dopaminergique la plus continue que possible. Donc on a des médicaments associés à une autre molécule qui permet que ce soit plus continu. On a des médicaments dopaminergiques qui sont à forme retard. On a de la dopamine que l'on peut donner directement dans l'intestin, les pompes à duodopa. On l'utilise plus, mais dans le temps, on utilisait des pompes à apomorphine qui étaient un peu comme les pompes à morphine aux gens qui ont des douleurs, mais où c'est aussi un médicament qui fait stimuler la dopamine en continu. Donc le but idéal, c'est d'avoir une stimulation dopaminergique continue.
Ce qui n'est pas toujours possible, malheureusement, non, pour certaines personnes, puisque nous ne sommes pas égaux non plus devant la maladie. Et parfois, certains s'avèrent être résistants ou réagissent mal à certains traitements. On revient dans quelques instants sur ces traitements de la maladie de Parkinson. Et on parlera bien sûr des espoirs qui nous ont été livrés en début d'année, voir un petit peu ce que l'on peut en attendre.
Au positif de 11h à midi sur la première.
traitement de la maladie de Parkinson avec le docteur Catherine Gillin et vous-même avec vos messages au 60-31. On a quelques messages consacrés à la fatigue. Le lien entre la dopamine et la fatigue semble assez évident, mais ça fait partie des dommages collatéraux de la maladie de Parkinson, fatigue qui s'installe.
Certainement, mais elle est liée à ce qu'on lisait tout à l'heure dans les news, c'est lié à l'altération de la qualité du sommeil. Donc très très vite, la qualité des cycles du sommeil est perturbée, avec une répercussion en somnolence diurne sûrement. Et puis la fatigue peut être un effet secondaire des médicaments, surtout les agonistes. C'est même leur effet secondaire principal. Donc ça, c'est difficile à contrôler. Oui.
Donc on imagine qu'il faut prendre, dans certains cas, des médicaments aussi pour dormir.
C'est-à-dire qu'il faut très rapidement faire une polysomnographie. Vous savez que je suis adepte de la polysomnographie. Oui. Comme ça, on peut identifier quelles sont les altérations du sommeil et effectivement corriger le plus possible les altérations du sommeil spécifiques au patient, de manière à lui permettre d'avoir une récupération non seulement métabolique, mais immunitaire. Vous vous rappelez combien c'était important. Et ça, c'est vrai que ça joue un très, très grand rôle.
Comme je l'ai dit, on a beaucoup annoncé ces derniers temps la thérapie génique, oui. Faisant en tout cas de grands progrès. Qu'en est-il exactement? Est-ce que c'est une annonce où on se dit il va encore falloir attendre 5 ans avant éventuellement d'avoir quelque chose d'assez efficace, ou est-ce que véritablement les progrès sont importants?
Il faudra attendre 15 à 20 ans.
Ah oui, 5 ans, moi. Naïve que je suis. Oui, 15 ans quand même.
Oui. Donc la thérapie génique, pour rappel, on essaye de modifier justement le génome, donc c'est-à-dire l'information génétique qu'il y a dans chaque noyau de chaque cellule, puisque l'on sait que ces cellules dopaminergiques perdent leur qualité de fonctionnement. L'idée, c'est d'aller leur inclure, leur injecter un fonctionnement de nouveau optimal. Alors, comment fait-on? On utilise des virus qui aiment bien aller dans les génomes, comme par exemple le virus du sida. Mais évidemment, ce sont des virus qu'on a tout à fait
atténués.
Courant inoffensif, hein, bien sûr. On profite, si vous voulez, de la machine. Ça s'appelle l'antivirus. On profite de leur machine. On leur met la qualité de programmation génétique de dopamine. Et puis, par chirurgie stéréotaxique, donc en allant implanter localement dans les zones atteintes du cerveau, on va implanter ces virus porteurs de cette capacité génétique à reprogrammer de la dopamine dans la zone locale. Et petit à petit, si vous voulez, il y a un fonctionnement qu'on espère améliorer. Alors une fois de plus, c'est uniquement sur les symptômes moteurs locaux dans le locus niger et sur rien d'autre. Alors pourquoi je dis qu'il faudra au moins 15-20 ans? Parce qu'ils sont vraiment au début de ce type de recherche. On a déjà essayé beaucoup d'autres choses. Oui. On a essayé les cellules souches, on a essayé des cellules surrénales, on a essayé des cellules de fœtus de porc. Enfin, on a essayé beaucoup de choses qui n'ont pas donné.
Oui.
Donc la thérapie génique actuellement faite par une équipe franco-anglaise, ils ont fait ça depuis 2008 sur 15 patients. Avec des résultats que eux-mêmes disent dans la dernière publication du Lancet comme étant similaires à ceux du placebo. Donc il faut un petit peu se méfier quand même sur l'évolution. C'est à suivre maintenant. Le projet est certainement à garder et à pouvoir identifier et voir les résultats à plus long terme que ça va donner. Ils vont continuer sur d'autres patients. Ils vont passer dans ce qu'on appelle les phases 2 et les phases 3. Mais tout ça prend vraiment beaucoup de temps puisque ça doit être étudié aussi à long terme. C'est une maladie progressive. Donc l'équipe de Créteil pense faire la phase 3 vers les années 20. Et donc si jamais ça donne, ça ne sera autorisé que vers les années 25-30.
Est-ce que c'est une bonne option? Parce qu'il s'avère, c'est vrai que la thérapie génique offre de beaux espoirs dans de nombreuses pathologies, mais il s'avère aussi que dans d'autres, ce n'est pas finalement la solution idéale et qu'il y existe des chemins qui seraient peut-être beaucoup plus efficaces et même plus rapides à mettre en place. Est-ce que dans le cadre de la maladie de Parkinson, c'est vraiment une piste à suivre, ou est-ce qu'on devrait d'office l'abandonner et se dire non, on va se concentrer sur d'autres choses, parce que de toute façon la maladie risquera d'évoluer?
Alors de toute façon la maladie, on le sait, évolue. De toute façon, on sait qu'elle touche d'autres choses. Ça, c'est vrai. Donc, je dirais qu'a priori, en théorie, on peut se montrer un petit peu sceptique. Mais en pratique, il faut rester ouvert. Il faut faire des essais. Il faut chercher. Et on peut parfois avoir des pistes. Peut-être que si on peut faire une thérapie génique très tôt, on peut empêcher cette cascade dont on parlait. Je ne sais pas. J'en sais rien, évidemment, puisqu'on est en train de voir les effets. Mais pourquoi pas? pourquoi pas quand même programmer de continuer de voir ce que ça donne.
Pour être bien clair par rapport à la cascade, pour accéder d'une cascade à l'autre, il ne faut pas comme condition sine qua non que la première cascade soit finie. Ce ne sont pas des phases qui en entraînent une autre. Ce sont des phases qui vont être plutôt en forme d'étoile. Quoi.
C'est un peu une tache d'huile qui va s'étendre. Voilà, tout à fait.
Et que ce n'est pas parce qu'on bloque une partie que les autres vont être
enrayées. C'est ça le souci. On n'en est pas très sûr, mais sans doute nous, sans doute que c'est tout ce qui est neurone dopaminergique qui finalement se dégrade dans le corps. D'ailleurs, on parlait des troubles du sommeil comme étant annonciateurs, mais il y a aussi les troubles digestifs. Si vous avez un patient qui vous dit « Docteur, c'est bizarre, la nuit, qui parle des troubles du sommeil dont on a parlé tout à l'heure, et en même temps, qui a une modification de son fonctionnement intestinal, qui par exemple était tout à fait régulier pour aller à selle et qui tout à coup devient constipé, il faut toujours se poser des questions. En plus, s'il perd l'odorat, là vous êtes dedans. Dans 2 ans, il développe le Parkinson.
Je revenais à ça parce que quel est l'intérêt de diagnostiquer très tôt et très, très précisément dans ce cas-là? Parce qu'on pourrait se dire, si je le sais 10 ans avant, mais que je sais qu'on ne pourra rien faire.
Voilà, votre question est tout à fait pertinente. Je ne sais pas.
Oui.
On espère arriver un jour à pouvoir ralentir le plus possible et donc à savoir de plus en plus tôt. Mais c'est exactement le même débat éthique dans la maladie d'Alzheimer.
Oui.
On pourrait le savoir plus tôt. Il y a des moyens de savoir si on va la déclarer ou pas. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas.
Oui, surtout quand on l'apprend au jour d'aujourd'hui en se disant...
On ne peut pas empêcher que ça évolue. Donc, le tout, je pense, c'est de rester curieux, de rester inventif pour chercher des traitements sûrement. Et pour les patients qui commencent la problématique maintenant, de les accompagner au mieux possible dans l'ensemble de la symptomatologie, non seulement au niveau moteur, mais également, effectivement, au niveau de leur corps, au niveau de leur intellect, au niveau de leur émotion, parce que petit à petit, malheureusement, tout est touché. Et donc, il faut vraiment, ce sont des patients qu'on doit, apprendre à vivre avec eux, entre guillemets, et les accompagner, et apprendre à l'entourage aussi à comprendre et à avoir un comportement adapté par rapport aux modifications qui se présentent.
Dans un instant, après Serge Gainsbourg, je vous propose de revenir sur quelque chose qui a été annoncé ce week-end sur nos antennes d'ailleurs, un test clinique qui a lieu à Lille en ce moment même. On en reparle juste après Serge Gainsbourg.
Positif, le dossier.
Avec le docteur Catherine Gillin, neurologue, on parle des traitements de Parkinson. Une étude menée dans les laboratoires du CHU de Lille aurait permis de découvrir un nouveau traitement expérimental pour lutter contre cette maladie de Parkinson. Évidemment, on est encore loin de la mise sur le marché, mais il s'agit ici de la puissante action antioxydante d'une molécule qui a été testée. Alors, on parle de chélateur de fer. On va expliquer un tout petit peu de quoi il s'agit. Là, est-ce qu'on parle d'un traitement justement où l'objectif est de ralentir au mieux la maladie ou l'objectif est-il d'aider le patient à mieux vivre sa maladie? Comment ça fonctionne? C'est prometteur ou pas? C'est pas très loin de chez nous en plus.
Oui, c'est les deux. Leur but est de ralentir et donc d'améliorer la clinique. Donc en fait, le fer est indispensable dans la chaîne de formation de la dopamine.
Oui.
Okay, le fer en dans toutes les parties du corps d'ailleurs, s'il est en excès, il devient toxique. Parce que il agit justement, si vous voulez, il étouffe un petit peu les cellules, quelles qu'elles soient. Si vous avez trop de fer dans le foie, c'est toxique aussi pour le foie. Alors au niveau du cerveau, on le sait qu'il y a pas mal de maladies qui sont dues à des accumulations de fer, ou parfois de cuivre, ou parfois d'autres métaux. Mais dans la maladie de Parkinson, donc cette équipe de Lille s'est rendue compte qu'en faisant des études par des techniques d'imagerie particulières, il y avait une concentration plus élevée de fer dans les zones atteintes. Et donc leur idée a été de donner un médicament qui capte l'excès de fer. Ni trop, ni trop peu, parce qu'on en a besoin pour fonctionner. Ils ont pour l'instant 40 patients, avec, disent-ils, mais ils n'ont pas encore publié. Avec, disent-ils, des résultats positifs en termes d'amélioration. Ils ont surtout étudié les échelles dites motrices,
oui.
Donc au niveau de la motricité. Donc ce sont des patients qui débutent leur maladie, c'est tout au début qu'ils ont pris, pas des patients en maladie avancée, avec effectivement, à ce moment-là, un espoir au niveau de ce qu'on disait tout à l'heure, la neuroprotection.
Donc, à suivre malgré tout.
À suivre absolument. Et attention, traitement en plus des traitements habituels.
C'est ça.
Les patients reçoivent toujours leur dopamine, qu'elle soit dopamine directe ou l'agoniste ou autre chose. Donc ça, c'est important aussi de le dire. Ce serait une manière, si vous voulez, d'ajouter quelque chose.
Dans les choses les plus farfelues, on entend aussi beaucoup de choses, hein, évidemment, par rapport à la maladie de Parkinson. Vous m'avez parlé de crachat de lézard.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pourquoi?
Eh bien, il paraît qu'il y a un lézard qui s'appelle Gila, G-I-L-A,
oui.
Un lézard d'Amérique du Nord, il paraît qu'il n'est pas beau du tout, mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et dans sa salive, il y a de l'exandine 4, je dois le lire, hein, évidemment, je ne sais pas ça par cœur, qui aurait un effet de protection des neurones dopaminergiques contre tout ce qui est nocif. Il aurait. Donc, il y a certaines équipes, quelque part, qui essayent de les donner depuis 2010. Donc à Londres, il y a des équipes qui donnent ce salive de lézard, tant d'ailleurs dans le Parkinson que dans la maladie d'Alzheimer, pour voir si on peut ralentir aussi le processus neurodégénératif.
Alors, on va quand même terminer sur une note d'espoir. Hein. Ça, c'est un clin d'œil, évidemment, le crachat de lézard. On y reviendra, à mon avis, pas hein, du tout. Par contre, rappelez, c'est vrai qu'en matière de traitement, c'est difficile, mais il existe hein, des choses.
Bien sûr.
On l'a dit. Des choses aussi qui viennent en aide pour tous les symptômes secondaires et les traiter et puis aider ces personnes. Et puis surtout, aujourd'hui, on a quand même rallongé l'espérance de vie des personnes atteintes
Absolument.
De Parkinson.
Absolument. Quand on voit
l'espérance de vie en bonne santé, en tout cas en
oui,
la
oui, clairement,
façon possible,
clairement.
Quoi.
Bon, la première chose à préciser très rapidement, il ne faut jamais oublier qu'il y a quand même plusieurs types de maladies de Parkinson. En tout, il y a 18 gènes qui sont en cause, plus les maladies sporadiques. Donc, un Parkinson n'est pas l'autre. D'accord ? Mais quand même, depuis qu'on a ces médications à base de dopamine et associées, on ne va pas revenir dans les détails, on a considérablement amélioré la qualité de vie, certainement, et aussi la durée de vie. Donc maintenant, quelqu'un qui débute une maladie de Parkinson a pratiquement un espoir de vie identique à quelqu'un d'autre. Le tout, c'est qu'effectivement, il faut être clair, il va être de plus en plus handicapé par sa maladie, on est bien d'accord. Mais quand même. Donc, en associant une prise en charge, d'abord, un diagnostic de certitude. Il s'agit bien de Parkinson et pas d'un Parkinson associé. Deuxièmement, mettre en route effectivement la médication sous surveillance pour avoir la dose qui correspond au patient et aussi à son activité. Tout est différent si vous avez un patient encore jeune, très actif, ou un patient pensionné, un patient sportif, pas sportif, tout ça doit être discuté. On a quand même des médications qui sont de plus en plus adaptées. On a beaucoup de possibilités d'aider. On n'a pas parlé de la neurochirurgie, mais elle a vraiment sa place. Elle a vraiment sa place avec des résultats qui sont prometteurs, évidemment, chez des candidats qui doivent être bien ciblés. Donc, je veux dire, en termes d'une part médication, plus tout le reste, hein, on n'en a pas parlé, mais tout ce qui agit sur le moral, sur l'humeur, sur le sommeil, tout ça doit être mis en place. Si les médicaments ne donnent plus, on a les pompes à duo de pas, on a actuellement la chirurgie par stéréotaxie, on a quand même des armes thérapeutiques qui sont efficaces. Alors que l'on cherche, oui, sûrement, il faut continuer à chercher pour, si possible, identifier dès le départ que ça se met en route.
Mais la recherche va parfois dans tous les sens et recibler, c'est toujours une bonne idée.
C'est très important.
Aussi. Merci beaucoup, docteur Gilin.
Plaisir.
À très vite dans cette émission. Au revoir.